m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Il n'y a que deux choses valables en art. Un, la fulgurance de l'autorité. Deux, la fulgurance de l'hésitation. C'est tout. L'un est fait de l'autre, mais au sommet, les deux se distinguent très clairement. Voilà ce qu'écrit Nicolas de Staël en 1953 au poète Pierre Lecuire. Voilà ce que dit Bruno Abraham Kremer sur le plateau du théâtre du Lucernaire. Autour de lui, deux musiciens et d'immenses toiles vierges suspendues au cintre sur lesquelles sont projetées les œuvres de ce peintre inclassable. Pendant plus d'une heure, le comédien déclame au public les lettres de cet artiste passionné, torturé, exigeant au parcours météorique. Nicolas de Staël, la fureur de peindre, c'est en ce moment à Paris et jusqu'au 15 novembre au Théâtre du Lucernaire. Et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Bruno Abraham Kremer.
Bonjour.
Le Lucernaire, c'est une salle que vous connaissez bien. Hein. Dans ce même théâtre, vous aviez déjà présenté deux autres spectacles, l'un autour de Jean Kelevitch, ouais. L'autre autour de Romain Gary. Voici donc Nicolas de Staël, trois hommes, trois destins. Qu'est-ce qui les réunit ?
Sans doute deux choses, mais une en particulier qui est le fait que ce sont des gens qui ne voulaient pas être enfermés dans des petites boîtes. Ce sont des hommes libres, des esprits libres, et que ce soit Jean Kelevitch, Romain Gary ou Nicolas de Staël, tous les trois, chacun évidemment dans un domaine qui est tout à fait différent, mais veulent absolument rester libres. Donc ça, c'est une chose qui les réunit pour eux-mêmes, je dirais. Et puis il y a une chose qui les réunit par rapport à moi, c'est que ce sont des gens que je consulte régulièrement quand j'ai besoin. Quand par exemple en ce moment où la vie n'est pas si facile comme on a pu le remarquer, pour essayer de me faire du bien, ça peut m'arriver de lire quelques pages de Tchekhov ou quelques pages de Gary ou quelques pages de Vincent Van Gogh ou quelques pages de Nicolas de Staël, par exemple.
Toute ma vie, j'ai eu besoin de penser peinture, de voir des tableaux, de faire de la peinture pour m'aider à vivre, pour me libérer de toutes les impressions, toutes les sensations, toutes les inquiétudes auxquelles je n'ai jamais trouvé d'autre issue que la peinture.
Nicolas de Staël, vous l'avez d'abord rencontré par les tableaux, Bruno Abraham Kremer ?
Alors, je l'ai rencontré d'abord par les tableaux, oui. J'aimais beaucoup sa peinture, comme énormément de gens. Et après, il se trouve qu'il y a quelques années, j'avais eu en main un petit livre qu'on m'avait offert, qui était des extraits de sa correspondance. Mais à l'époque, il y avait assez peu de choses qui étaient publiées. Et entre-temps, sa fille et le comité Nicolas de Staël ont publié l'intégralité de sa correspondance, auquel j'ai eu accès, comme tout le monde, en achetant le livre. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, ah mais il a raison, puisqu'il le dit lui-même dans une lettre à son père, je crois, en 1937. Il dit à son père que le meilleur de lui-même tient sans doute dans ses lettres et dans ses dessins. Alors quand on connaît sa peinture et qu'on l'aime et qu'on se dit s'il pense que c'est encore mieux, et effectivement, Nicolas de Staël, c'est non seulement un très grand peintre, tout le monde le sait, mais c'est un grand écrivain. Et il nous offre une possibilité qui est extrêmement rare, qui est de rentrer dans son atelier, derrière lui, et il nous explique ce qu'il cherche, ce qu'il fait. Il expose l'ensemble de ses contradictions d'être humain, à la fois comme peintre, mais aussi comme être humain.
Les raisons pour lesquelles on aime ou on n'aime pas ma peinture m'importent peu. Parce que je fais quelque chose qui ne s'épluche pas, qui ne se démonte pas, qui vaut par ses accidents que l'on accepte ou pas. On fonctionne comme on peut et moi, j'ai besoin, pour me renouveler, pour me développer, de fonctionner toujours différemment d'une chose à l'autre, sans esthétique a priori. On accorde fort, fin, très fin, valeur directe, indirecte ou l'envers de la valeur. Ce qui importe, c'est que ce soit juste, cela toujours. Mais l'accès à ce juste, plus il est différent d'un tableau à l'autre, plus le chemin qui y mène paraît absurde, plus cela m'intéresse de le parcourir.
Cette recherche de la justesse, Bruno Abraham Kremer, cette foi dans la diversité des chemins pour parvenir à ce qui est juste, est-ce que vous pourriez la reprendre à votre compte concernant votre art à vous, concernant le théâtre ?
Je n'oserais pas par modestie malgré tout, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une chose qui est, et c'est formidable parce que je le vois, oui, quand même à mon petit niveau. Par exemple, Nicolas de Staël, une des choses qu'on lui a reproché souvent, c'est de changer de style. Voilà, et moi je trouve que c'est sa qualité première, c'est qu'il a été d'abord abstrait, puis il est devenu figuratif, et puis il a réussi à transcender ces choses-là, ces deux genres-là, et à avoir un genre qui est unique, qui est à la fois et figuratif et abstrait. Et Et c'est pareil quand on est un artiste. Moi, on ne cesse de me dire, ben pourquoi vous refaites pas ce que vous avez déjà fait la dernière fois? C'était formidable quand vous avez fait ceci. Il y a ceux qui préfèrent celui-ci, ceux qui préfèrent celui-là. Mais peu importe, on voudrait toujours que. Puis ça, ça a eu beaucoup de succès. Là, pourquoi ne pas le refaire? Et c'est pas la question.
Donc creuser un sillon, c'est pas ce qui vous intéresse.
Je creuse un sillon, mais ce sillon n'est pas forcément toujours le même sillon. Il y a des sillons les uns à côté des autres et c'est un champ. Voilà, un champ d'expérimentation. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer d'être en adéquation le plus possible et avec moi-même et aussi avec ce qui se passe autour de moi. En ce moment, avant de monter ce spectacle, moi, je me suis posé, comme beaucoup d'entre nous, beaucoup de questions. Et puis, je me suis dit, mais c'est vraiment le moment de ça. C'est le moment de partager avec les gens des moments lumineux où ils se rendent compte qu'est-ce que c'est qu'un artiste. C'est quoi être dans la tête de quelqu'un comme ça? Parce que on vient de passer 3 mois confinés, là, chacun chez soi, on se promenait. Et puis, de temps en temps, on essayait d'écouter quelque chose à la radio ou à la télévision ou sur les réseaux sociaux, etc. Mais les gens avaient soif, avaient besoin d'art. Et je me suis dit, et on le voit dans les salles, les gens qui reviennent, ils ont besoin de cette troisième nourriture. L'être humain, il se nourrit à la fois de choses pour manger, de choses pour respirer. Et puis il y a une troisième nourriture qui est, disons, les émotions, les impressions, l'art. Et je crois que c'est modestement ce qu'on essaie de faire, oui.
Jeanne, mon chéri, c'est la première exposition de ma vie où je vois clair. Là, c'est un grand peintre avec tous ses défauts. Je me sens le cœur dur, prêt à me défendre envers et contre tout. Ce que je sens est là. Chaque tableau, meilleur que le salon de mai, meilleur que tout ce que j'ai fait. La couleur claque dure, juste, formidablement vibrante, simple, primaire. Le nu est tendre, rouge de braise vive. Un peu ému, fatigué. Je ne sais combien de temps je mettrai pour bondir plus loin, mais c'est là maintenant, grâce à toi. Je ferai tes ports, tes paysages et toi. Je t'aime, petit. Et maintenant, tu vas souvent entendre ma voix. J'ai passé le plus dur.
Bruno Abraham Kremer, le spectacle autour de Vankelevitch aussi était bâti à partir de la correspondance. C'est donc également le cas de celui-ci sur Nicolas de Staël. Un échange de lettres, on se dit que c'est pas forcément ce qu'il y a naturellement de plus théâtral. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la correspondance?
Ça dépend des correspondances, en fait. Il y a des correspondances qui ne sont pas du tout théâtrales. Mais il y en a aussi. Hier, il y a un monsieur qui m'a dit, non, mais c'est pas vrai, un spectateur. Il m'a dit, c'est pas vrai. Avouez-moi la vérité. Vous avez réécrit les lettres.
On se pose forcément la question.
Voilà. Et j'ai dit pas du tout. Il n'y a pas un mot de réécrit. C'est les lettres exactement telles qu'elles sont. Mais parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Nicolas de Staël, en fait, quand il écrivait, et on voit bien, d'ailleurs, parce que les lettres, dans la même lettre, il passe d'une chose très grave à une chose très légère, d'une chose capitale à un truc, à un détail de la vie. Voilà. Et en fait, c'est presque comme s'il se parlait à lui-même, et surtout, notamment sur les lettres, sur la peinture, il fait le point avec lui-même, là où il en est, au moment où il parle, qu'est-ce qu'il cherche. Voilà. Et c'est vrai que ces lettres ont une qualité d'oralité assez extraordinaire, c'est pour ça que je les ai choisies.
Mais quand vous les avez lues pour la première fois, vous les avez lues à haute voix, déjà dans l'idée d'en faire la lecture, ou en tout cas de les transposer sur une scène de théâtre?
C'est un défaut que je dois confesser.
Oui.
J'aime beaucoup lire à haute voix, et surtout si je sens qu'il y a une chance que ça puisse devenir du théâtre. En tout cas, le théâtre lui-même, par exemple, une pièce, si on m'envoie une pièce, je la lis à haute voix, parce que le théâtre, ça se lit à haute voix, sinon c'est absolument pas possible de sentir quelque chose.
Et des images vous viennent tout de suite à l'esprit au moment de la lecture?
Ah bah oui, il y a des images qui me viennent, surtout, et surtout ça me bouleverse, moi ce qu'il dit à certains moments, ça me bouleverse profondément. Et par ailleurs, il y a une chose que j'aime énormément dans la correspondance, c'est que c'est une chose qu'on ne peut pas, avec laquelle on ne peut pas tricher. Les lettres que Jankélévitch a écrit, ou que Tchekhov avait écrit, ou que Nicolas de Staël écrit là, elles ont été écrites à ce moment-là, comme ça, point fin. Et quand j'ai vu les vraies lettres, il n'y a pas un mot de différent de ce qu'il y a imprimé sur le livre. Et donc, c'est pas comme un texte qu'on peut un peu retoucher. Non, c'est ça qu'il a dit à ce moment-là.
Mais ce qu'il a dit n'est pas forcément la vérité. Après tout, on peut écrire exactement ce que l'on veut. Est-ce que ça donne pas une mauvaise image de celui qui écrit? Une image faussée?
non seulement ce n'est pas la vérité, mais en particulier si on pense à Stahl, lui-même, il se contredit lui-même tout le temps et il revendique ça. La citation magnifique que vous avez citée tout à l'heure, la fulgurance de l'autorité et la fulgurance de l'hésitation, c'est exactement la contradiction devant laquelle il se met. Il veut à la fois l'intensité de la frappe, comme il dit, et en même temps le toucher le plus léger possible. Il est tout le temps, et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'il revendique le fait d'être paradoxal. Cette chose qu'on essaye en général, la plupart du temps dans sa vie, de dissimuler pour avoir l'air d'être tout à fait cohérent, de savoir exactement où on va, qui on est et ce qu'on fait. Lui, au contraire, il dit, ben voilà, moi je cherche et ceci et cela. L'intensité de la frappe et l'intensité de la méditation.
Mais comment est-ce qu'on passe de la fulgurance de la peinture à la fulgurance du texte et ensuite à la fulgurance de la scène ?
Ben, on s'entoure d'une équipe. Par exemple, moi je mets en scène et j'adapte avec une dame qui s'appelle Corinne Juresco, qui m'accompagne depuis un certain nombre de spectacles, déjà à l'époque de La Promesse de l'Aube. Donc c'est vraiment mon regard et mon bras droit. J'ai un scénographe, quelqu'un qui fait les lumières, etc. Et tout le spectacle est accompagné. Ça fait à peu près 25 ans que je travaille avec les mêmes gens. Et donc on se connaît bien, on se pratique bien, on a une sorte de confiance très forte. Et c'est comme ça qu'on a, au départ, on ne sait pas ce que va être le spectacle. Voilà, et ça se construit peu à peu, on s'ajuste par rapport à cette parole et par rapport au sens que Nicolas de Stahl nous offre.
Comment est-ce que vous les avez choisis, les lettres qui vous ont permis de nourrir le spectacle ?
Je les ai choisis avec beaucoup de difficultés, comme toutes ces adaptations, parce que je voulais absolument, j'avais l'intuition, parce que l'intuition est une chose à laquelle je crois beaucoup, qu'il fallait que le spectacle soit court. Pas plus d'1h10, il fait 1h09, exactement. Et pourquoi ? Parce que je savais qu'on demandait quand même un effort aux gens. Ça demande une qualité d'attention. Voilà, il faut être là. Et donc je me suis dit, il faut pas que ça soit trop long. Et donc évidemment, le choix des lettres était d'autant plus compliqué. Et je voulais avoir comme fil conducteur la peinture, son évolution sur son travail de peintre, mais aussi en parallèle, vraiment, son évolution dans sa propre vie intime, y compris, parce qu'il y a des lettres, la lettre qu'on vient d'entendre, l'extrait qu'on vient d'entendre sur Jeanne, qui est la dernière femme qu'il a aimée, et qui a été son modèle et son inspiration jusqu'à sa mort. C'est bon, évidemment, voilà, je voulais qu'il y ait tous ces aspects-là, et en gros, ce que je voulais encore plus que tout, c'était qu'on puisse avoir ces mots-là, qui s'inscrivent, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a un espace autour, et dans cet espace où il y a des toiles, il y a des tableaux de Nicolas de Stahl qui viennent s'inscrire, et donc on est totalement, en fait, comme si on était dans l'atelier de ce peintre, avec lui qui nous parle de ce qu'il est en train de faire.
Oui, effectivement, il y a un projecteur hein, qui nous montre, à nous, spectateurs, les tableaux sur ces toiles qui pendent comme ça des cintres. Et vous n'êtes donc pas seul, Bruno Abraham Kremer. Il y a vous, il y a les tableaux, hein, faut pas les oublier, les tableaux qui, effectivement, changent d'une scène à l'autre. Et puis, il y a deux musiciens, Jean-Baptiste Favori à l'électroacoustique et Hubertus Biermann à la contrebasse, qui vous donnent la réplique, hein, d'ailleurs, en prêtant sa voix à quelques-uns des correspondants de Nicolas de Stahl, et notamment au poète René Char.
Oui.
On va entendre un extrait dans quelques secondes, juste avant, et peut-être pour bien comprendre, qu'est-ce que René Char a été pour Nicolas de Stahl ?
Un frère. C'est une rencontre extrêmement forte entre eux, vraiment fulgurante.
1951, c'est ça.
Oui, 1951. Ils s'écrivent entre 51 et 54, pendant 4 ans, et c'est des lettres presque tout le temps, quoi, et des lettres intimes où ils se livrent l'un à l'autre vraiment. C'est deux géants, ils font tous les deux 2 mètres, et un géant de la littérature, de la poésie évidemment, René Char, qui est un peu plus âgé. Donc c'est un peu à la fois comme un frère, mais aussi comme une figure paternelle pour Nicolas de Stahl, qui lui démarre sa carrière. Et il se trouve que René Char va lui commander, il prépare un livre. Il cherche un artiste pour faire des graphismes et des lithos à côté de ses poèmes. Et il demande à Stahl de faire ça. Ça va être une aventure absolument formidable pour eux. Et ils vont passer plusieurs années, tellement que Stahl va venir s'installer à côté de René Char à Lagne, proche de là où habitait René Char, parce qu'il veut être plus près de lui. Et c'est une... Oui, c'est vraiment une histoire d'amitié très 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 profonde, absolument magnifique. et bouleversante, ça aussi, parce que on se demande est-ce que ça existe encore aujourd'hui, un artiste qui serait, parce que à l'époque René Char c'était une superstar, hein. Voilà, est-ce que ça existe encore un artiste comme ça, de ce gabarit-là, qui pourrait veiller sur un plus jeune artiste et lui dire ce qu'il lui écrit, ton tableau a l'odeur d'un bouquet d'étoiles de chaleur, quand il lui offre un tableau, par exemple, ou des choses comme ça. Je suis pas sûr que j'aimerais que ça existe encore, mais en tout cas, il y a une vraie implication extraordinaire et une vraie fraternité, quoi. Quand Stahl va mal, il lui dit, mais comment tu peux me dire que tu vas mal? Pourquoi tu fais pas appel à moi? Et en plus, il y a cette chose extraordinaire, c'est que quand ils s'écrivent, c'est de la poésie dans un cas et dans l'autre. C'est pas juste comme quand vous et moi on s'écrit. Hein. Je ne veux pas préjuger de vos qualités, mais
c'est pas encore arrivé, mais peut-être que ça arrivera un jour.
Mais en tout cas, c'est absolument, c'est magnifique, quoi.
À bord du paquebot Île-de-France, voguant vers New York pour l'exposition organisée par Théodore Schempp. Très cher René, par gros temps en mer, je pense toujours à ce peintre dont je ne sais plus le nom, qui se faisait attacher au mât de misaine pendant la tempête pour voir et garder la vision de tous ces déchaînements d'écume. Terre-Neuve, un froid de loup, j'ai le visage comme une tomate picotée d'aiguilles salines. Quel temps! Mais l'essentiel est qu'on avance sans se contenter de ne pas dériver. 16 heures de sommeil par jour, le reste à deviner le paysage. René, si le cœur t'y porte, tu trouveras autant de variétés, d'aspects différents sur ce long parcours que la terre nous en donne sur le sien. Il n'y a pas que cette immense ébullition où l'on se contente de quelques tracés monotones. C'est extraordinairement mesuré, l'océan, bien bâti, alerte, différent, à chaque instant heureux, et quel trouée au couchant, avec ses petits nuages pâles qui semblent rire du poids des vagues, bleus, verte, serpent, miroir superbe, que cela s'organise bien, ce débordement, quel tempérament équilibré. Je n'en ai jamais tant vu de couleurs fugitives, certaines impossibles, éclatantes, calmes. Quelle joie, René, quel ordre. Tu vois, je suis heureux en diable. Je pense à toi, mon amour dort un peu plus que moi, mais supporte très bien ce vacarme, intérieurement serein. Je t'embrasse, René. Te peindrai des tempêtes en rentrant.
Alors là, il y a les mots, hein, Bruno Abraham Kremer. Il y a aussi l'installation d'une ambiance musicale qui est là pour souligner le texte. Il y a l'atmosphère qui s'installe autour des mots. Il y a une forme de suggestion. Et il y a aussi, à d'autres moments du spectacle, une forme de ponctuation, hein, musicale de la langue. Comment est-ce que vous avez articulé le texte, votre voix, vos intonations avec les interventions des deux musiciens?
En fait, l'intuition de départ, c'était que la contrebasse d'Hubertus était une façon de faire vivre ce que Stahl appelle la vibration. Il cherche tout le temps ça dans la peinture, la vibration, mille vibrations. Et comme évidemment, il n'était pas question que je peigne sur le plateau, j'avais envie qu'il y ait comme une équivalence de cette vibration qui serait le son de la contrebasse. Et après, il se trouve que les deux musiciens que j'ai choisi, tous les deux sont des gens qui pratiquent la musique improvisée, et donc on a établi des cadres. Je précise pour les gens qui ne sauraient pas que la musique improvisée, c'est pas n'importe quoi, en fait, c'est des cadres très précis dans lesquels, à l'intérieur de ces cadres, ils peuvent après changer des choses, mais c'est un peu comme dans les grilles de jazz, les gens connaissent en général ça, c'est un peu le même principe. Donc on a cherché, ça a fait partie vraiment du travail de répétition, c'est pour tel moment, quel est le bon climat, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, et on a essayé de se rapprocher au plus possible de ce qui me paraissait en tout cas le plus juste pour faire vibrer chaque moment dont il était question.
Il était aussi évident qu'il n'allait pas y avoir de voix off pour les correspondants, et que ce soit les autres musiciens, alors, oui, qui soient aussi comédiens.
Ça, je leur ai dit tout de suite, je voudrais, enfin Hubertus, il est et musicien et comédien, donc je lui ai dit tout de suite qu'il ferait et René Char et un autre personnage qui s'appelle Jean Boré, et l'autre musicien aussi, je lui ai dit tout de suite qu'il ferait Paul Rosenberg, parce que oui, je voulais que ce soit, parce que c'est quand même aussi la forme de ce spectacle, c'est comme un trio à trois voix, donc deux instruments de musique plus un instrument humain vocal, mais c'est un mélange, Et je crois vraiment que ça aide aussi à rentrer dans l'aventure de cette langue et dans l'aventure de cette vie, parce que la vie de Nicolas de Staël, c'est quand même une aventure.
Pierre, si tu y penses et si vraiment Kathleen ne s'en sert pas, expédie-moi donc la boîte à couleurs dont tu m'as parlé, car il y a déjà plein de sable dans la mienne et si la main s'y prête, je ferai une bonne tapée d'études de chair, d'or et de diamants au soleil plein. C'est tout à fait étonnant ce qui se passe ici, dans le style moche, baigné d'éclats inoubliables. Mais que veux-tu ? Le soleil, c'est toujours comme ça. Il fera des dentelles rares avec n'importe quelle serpillière. Il suffit d'un peu de bleu et de beaucoup de blanc. J'habite le mas du couvent, à Bormes, Var. Salut, embrasse Kathleen. Françoise et les mômes rôtissent comme des frites à la foire.
Mon cher Nicolas, je sais maintenant où tu te trouves. Auprès de la lumière. Auprès du cachet bleu. Vie, et à bientôt. Tu manques. C'est certain. Fraternellement, René.
Très cher René, merci de ton mot. Ça m'a fait plaisir de te lire. J'étais un peu hagard au début. Dans cette lumière de la connaissance la plus complète qui existe probablement, où les diamants ne brillent que l'espace d'un éclat d'eau très rapide, très violent. Le cachet bleu, c'est absolument merveilleux. Au bout d'un moment, la mer est rouge, le ciel jaune et les sables violets, puis cela revient à la carte postale de bazar, mais ce bazar-là, cette carte, je veux bien m'en imprégner jusqu'au jour de ma mort.
Et le jour de la mort de Nicolas de Staël, Bruno Abraham Kremer, c'est le 16 mars 1955. C'est lui qui choisit la date, hein, puisqu'il se jette dans le vide du haut de son atelier à Antibes, dans le sud de la France. Il n'a que 41 ans. C'est toujours compliqué d'expliquer un suicide, mais quel est votre regard à vous sur ce geste-là?
Je crois que je me garderai bien de porter un vrai regard et encore moins un jugement. J'ai trop de respect et pour Nicolas de Staël et pour les gens qui commettent cet acte-là.
Mais il a écrit. Trois lettres le jour même de sa mort.
Beaucoup plus que trois lettres. Nous, on en garde.
Trois lettres dans le spectacle, en tout cas.
Oui, on en garde que trois, mais il y en a beaucoup d'autres. Et il y a des lettres qui sont des lettres personnelles qui ne sont pas publiées. Il a mis ses affaires en ordre, comme on dit, de façon très, très claire et très nette, on le sait. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas de doute possible. Je crois, en tout cas, qu'il y a, il y a des choses qui apparaissent. C'est que, il avait un absolu tellement placé haut pour la peinture, c'était plus grand que lui, et il visait ce qu'il appelle le renouvellement continu. Je pense qu'il était arrivé déjà très loin dans ce renouvellement continu. Peut-être qu'il pensait qu'il ne pouvait pas aller plus loin, je ne sais pas, c'est une hypothèse. Par ailleurs, il avait une histoire d'amour à cette époque-là tout à fait malheureuse avec Jeanne, donc voilà ce qu'on peut dire. Après, voilà, il a une vie aussi compliqué, hein. On ne parle pas de cet aspect-là de sa vie, mais c'est un prince, Nicolas de Staël.
Aristocrate russe, qui a fui la Révolution d'Octobre.
Qui a fui la Révolution d'Octobre avec ses parents. Pendant le voyage, au moment où il fuit Moscou, ses parents meurent l'un après l'autre. Et il se retrouve donc avec ses sœurs confiées à une famille qui est en Belgique, les Frisérots, qui vont les adopter. Mais enfin, ils sont encore très très jeunes. Il y a des blessures profondes. Voilà, et puis il y a un mélange entre il en a tellement souffert quand il a souffert d'une grande pauvreté au début, mais quand on dit pauvreté, c'est pauvreté quoi, ils arrachaient le plancher pour faire chauffer le poêle quoi. Et après il a gagné évidemment, il a eu un gros succès aux États-Unis. Je pense que ça a été très déstabilisant aussi pour lui, ce succès, parce que comme il dit, j'aimerais supporter mes petits succès comme un bœuf, mais quoique bœuf par certains côtés, je ne les supporte pas tels qu'ils sont. C'est compliqué le succès, parce que d'un seul coup on s'aperçoit par exemple que les gens achètent les tableaux pas forcément par goût des œuvres, mais aussi pour spéculer, ce qui était le cas aux États-Unis. Donc tout ça l'a déstabilisé. En plus, on lui demandait toujours de refaire ce qu'il avait déjà fait parce que ça se vendait bien. Là, après, de pas en faire trop parce que, or, c'était un homme libre. Donc tout ça, au bout d'un moment, ça doit devenir pesant et quelque chose qui est sans doute tout à fait invisible et indicible fait qu'à un moment, il décide que c'est assez.
Nicolas de Staël, La fureur de peintre, c'est donc au Théâtre du Lucernaire à Paris, dans le 6e arrondissement, jusqu'au 15 novembre. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Kremer.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Tu caches, tu caches. Sans prendre, je vais rien lâcher. Oh, j'ai un comportement d'affranchi. Il a fait le fond, l'attache. Faut du cash. Je vais en prendre, je vais rien lâcher. Oh, j'ai un comportement d'affranchi. Il a fait le fond, l'attache. Faut du cash. Tu caches, tu caches. J'attends ma paye. Je veux pas que tu m'aides. Je veux pas que tu m'aimes. J'attends ma paye. Je veux pas que tu m'aides. Je veux pas que tu m'aimes. Je vais en prendre, je vais pas me cacher. J'ai un comportement d'affranchi. Il a fait le fond, l'attache. Hey, j'ai pris des sous, mais j'ai pas grossi, imbécile. J'ai encore des soucis. Si j'écoute mes démons, j'y vais maintenant, je les élimine. Je veux pas rester ici. J'ai envie de prendre un Uzi et me casser sur une île. Alors c'est comment, Narnalo? Tu te rappelles quand j'étais à pied et que tu me disais pas un mot? Là, t'as rodave les quatre anneaux. Hein? Cognon, tu vas jamais monter, j'suis en train d'écouter Parano. Et la crise, je l'ai oublié parce que j'ai pris un gros billet. Mais dès que j'ai bien palpé, j'passerai avec mon barillet. Je lui ai mis un coup de train, m'a dit on va se marier. Mais si j't'ai pas connu, elle m'aurait jamais regardé. Son bon qu'à parler, de bagarre, de me armer. Ils ont jamais vu une douille. Du papier pour ma famille, mes proches, le reste, je m'en bats les couilles. J'éteins la lumière quand j'ai envie d'écrire. Moi je porte mes couilles, je compte pas que sur mes partenaires. Hein? Sur un coup de tête, je peux venir tout seul pour mettre par terre ta mère. Je suis encore plus sombre, mais j'ai pas changé. J'ai envie de l'attacher alors qu'avant c'est moi qui le défauchais. Pour lui, sur ma mère, j'aurais tout fait. Mais là, c'est la sienne que je vais faire déménager. Faut du cash, tu casses, tu casses. Je vais en prendre et je vais rien lâcher. J'ai un comportement d'affranchi. Il a fait le fond, l'attache. Faut du cash, tu casses, tu casses. Je vais en prendre et je vais rien lâcher. J'ai un comportement d'affranchi. Il a fait le fond, l'attache. Faut du cash, tu casses, tu casses. J'attends ma paye, je veux pas que tu m'aides. Je veux pas que tu m'aimes. J'attends ma paye, je veux pas que tu m'aides. Je veux pas que tu m'aimes. Je vais en prendre et je vais pas me cacher. J'ai un comportement d'affranchi. Il a fait le fond, l'attache. Tu me veux du mal, mais sur un texto je peux avoir ta peau. Je fais encore du sale, je viens d'acheter des armes et des kilos.
Des kilos, des kilos.
De temps en temps, je tire une table, je pense à mes ennemis. Je suis pas content, je rigole tout seul et je remonte dans l'audi. Ce que j'écris, c'est la rue, faut s'adapter, cogno. Je vais pas t'épargner si tu t'es manqué. Y'a des bandits qui vont te rappeler. Au cas où tu sais pas, je mettais les gants avant de rapper. J'ai changé d'adresse et là tu t'en veux.
Tu t'en veux, hein?
Pas les couches, les baisses, coupe pas mes cheveux.
Non.
On a cramé ton vice, donc arrête un peu.
Arrête.
Ils croient que je suis blindé, mais y'a toujours mieux. Faut que je me calme, j'arrête les bracos, j'ai viscère de la cam. Envoie tes menaces, passerai en bécane.
Direct, direct. J'suis dans le mental.
Envoie tes menaces, passerai en bécane.
Faut du cash,
tu casses, tu casses. J'vais en prendre et j'vais rien lâcher. J'ai un comportement d'affranchi. Il a fait le fond, l'attache. Faut du cash,
tu casses, tu casses.
J'vais en prendre et j'vais rien lâcher. J'ai un comportement d'affranchi. Il a fait le fond, l'attache. Faut du cash,
tu casses, tu casses.
J'attends ma paye, j'veux pas que tu m'aides. J'veux pas que tu m'aimes. J'attends ma paye, j'veux pas que tu m'aides. J'veux pas que tu m'aimes. J'vais en prendre et j'vais pas me cacher. J'ai un comportement d'affranchi. Il a fait le fond, l'attache. Mais sur un texto, je peux avoir ta peau.
Affranchi, Sifax dans VMDN sur RFI, extrait de son nouvel album La Mentale qui est sorti aujourd'hui.
Un café gourmand, s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Avec cette semaine, Amélie Beaucourt, Carmen Lunsman et Marjorie Bertin. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour, bonjour à Jean-François.
Carmen, vous allez nous faire découvrir ou redécouvrir une des plus belles voix du monde grâce à une des plus belles actrices du monde.
Monica Bellucci alias Maria Callas, elle incarne, elle habite le personnage et révèle la face cachée de la diva sur scène à travers des lettres et mémoires quasi inédites car publiées plus de 40 ans après la mort de la Callas.
Un grand sourire franc, de grosses oreilles toutes rondes, une culotte rouge à boutons jaunes, ce n'est pas Monica Bellucci mais c'est quelqu'un d'encore plus connu sans doute dans le monde entier. Vous allez nous parler, Amélie, de
Mickey qui s'est lancé dans une aventure bien différente de celle que vous lisiez quand vous étiez petit, Jean-François. Une bande dessinée à la fois sombre et poétique, signée Filippi et Camboni chez Glénat.
Mais pour commencer, pour nous mettre en bouche, on part au cinéma.
Il était une dame tartine dans une belle maison de beurre frais. La cloison était de farine. Le plancher était de croquet. La chambre à coucher de crème de lait. Le lit de biscuit, les rideaux d'anis.
Voilà, avec une Madeleine de Proust en forme de dame tartine. Hein. Effectivement, Marjorie, avec un joli petit film à nous mettre sous la dent.
Oui, 5 jolis petits films. En fait, on va parler de gourmandise avec la chouette. Alors, la chouette, c'est un personnage de dessin animé. Et cette année, elle est toquée comme un grand chef pour inviter les enfants à la pâtisserie à travers 5 contes gourmands plus charmants les uns que les autres. L'idée, c'est d'éduquer les enfants à bien manger et à découvrir l'alimentation des animaux tout en s'amusant. On apprend même des recettes comme dans Le Petit Poussin Roux, dans lequel un poussin malin apprend comment faire des délicieux gâteaux à la framboise, avec de la farine, des œufs et bien sûr du lait.
Maman, comment fait-on du beurre ?
Avec du lait bien frais.
Comme celui de la vache ?
Oui, bien sûr.
Génial ! Venez avec moi. Belle vache, tu nous donnes de ton lait s'il te plaît ?
Oui.
Oui, on entend le lait qui coule dans le seau, c'est bien ça Marjorie.
Oui, et l'énergie des petits poussins.
Et qui est-ce qui fait ces dessins animés Marjorie?
Alors ils sont mitonnés par 5 dessinateurs différents, le scénariste de tous et l'initiateur de ces films de la chouette, c'est l'inventeur de la chouette, le flamand Arnaud de Minck, et pour lui la gourmandise est une vraie philosophie.
La gourmandise pour moi c'est le départ de l'envie de vivre. Quand on aime manger, on aime partager. Quand on aime manger, on aime les bonnes choses. On va rechercher les choses qui sont justes pour soi. Donc je crois que bien manger, c'est philosophiquement extrêmement important pour vivre en société avec les autres, pour se soigner soi-même. Et donc c'est très large. C'est du plaisir, c'est de la philosophie, c'est de la sociabilité. Manger, c'est extraordinaire. Et je crois qu'en France, c'est quand même un des centres de notre culture.
Bon, c'est bien un homme du Nord, hein, effectivement. Hein. Amélie, vous pouvez me le confirmer. On dit quand même parfois, Marjorie, que la gourmandise est un vilain défaut, non ?
Alors parfois, oui, ça peut devenir un problème. Et c'est le sujet d'un très beau conte, La cerise sur le gâteau. L'histoire d'un prince très riche, un gros pigeon très glouton qui mange tout le temps. Écoutons-le et engloutir son petit déjeuner.
Votre petit déjeuner étant terminé, Votre Altesse, c'est le moment de faire un peu de sport. Oh. Désirez-vous un goûter ? Je vais d'abord me promener pour m'ouvrir l'appétit.
Alors, vous avez entendu son estomac gargouiller ?
Ah non, pas du tout. Je ne l'ai pas du tout entendu. Un tout petit peu quand même, Marjorie.
Alors le prince a mangé comme ça, évidemment finit par tomber malade. Le docteur lui conseille d'aller boire chaque jour l'eau d'une source très loin au fond de la forêt pour guérir. Mais évidemment, il faut y aller à pied. C'est pas gagné parce que vous l'aurez entendu aussi, son seul sport, c'est le ping-pong. Heureusement, l'amour et l'amitié s'en mêlent bientôt et les effets de la promenade vont se voir. Alors on aborde ici la boulimie, la gourmandise maladive. Mais la gourmandise, elle est surtout joyeuse dans ses dessins animés. Les personnages mangent des bonbons et c'est pas par hasard. Arnaud de Minck.
Moi, je suis un énorme gourmand. Mon grand-père était confiseur. Il avait 2 magasins à Lille et à Tourcoing de biscuits. Et donc, je suis né dans le biscuit et dans le bonbon. Donc, je suis un terrible gourmand. Alors maintenant, je fais attention, hein. Mais et donc voilà. Donc, pour moi, manger des bonbons n'est pas en soi un crime. Que la chouette puisse être transformée en bonbon, en biscuit, c'est aussi bien qu'elle soit transformée en légumes et en fruits. Le tout est dans l'équilibre, évidemment. Il y a une vigilance, mais il y a aussi le sens du bonheur et de partager. On se fait tous des gourmandises. De derrière les fagots.
Alors d'autres contes comme L'ours qui avala une mouche permettent plutôt de découvrir la chaîne alimentaire.
Bah, gros ours, que t'arrive-t-il ?
J'ai avalé une mouche.
Ce n'est pas si grave pour une grosse bête comme toi.
Ce bruit, c'est insupportable.
Tu n'as qu'à manger une grenouille.
Pardon ?
Bah oui, les grenouilles, ça gobe les mouches.
Ah, bonne idée !
Donc l'ours suit les conseils de son ami l'écureuil, il avale une grenouille pour gober la mouche, puis une couleuvre pour manger la grenouille, puis un renard pour manger la couleuvre,
oui.
Et même un chasseur,
Et son fusil, évidemment.
Bon, pas de petit ours rousse dans le dessin animé, non?
Bah non, hélas, mais elle est avec nous en studio.
Mais tous les personnages sont des animaux, Marjorie?
Oui, sauf Dame Tartine, hein, donc, qui est une tartine. Et les animaux, Walt Disney l'avait bien compris, ça permet aux enfants de s'identifier. Parce que c'est doux, c'est un peu pâteau, parfois. N'est-ce pas, petit ours rousse? Ça dit des bêtises, c'est rigolo. Donc ces courts-métrages sont concoctés sur mesure et dessinés de façon artisanale avec des jolies couleurs. Parfois, c'est même du dessin fait au découpage parce que les enfants apprennent à découper avec des ciseaux dès la maternelle. Donc ils reconnaissent à l'écran quelque chose qu'ils pourraient faire. Cette simplicité travaillée rend ces dessins animés particulièrement accessibles.
La chouette en toc, c'est chouette donc, hein, et c'est à savourer dès le 14 octobre dans toutes les salles d'art et d'essai de France. Merci beaucoup Marjorie. C'est un univers sombre et poétique à la croisée entre Tolkien et Miyazaki, dans lequel nous allons nous plonger à présent, une bande dessinée avec donc comme personnage principal Mickey Mouse. Après L'Océan Perdu, Denis Pierre Filippi et Silvio Camboni ont revisité les aventures de la petite souris la plus célèbre du monde pour l'emmener à la recherche de la Terre des Anciens. C'est le titre d'ailleurs, Amélie, de ce nouvel album paru chez Glénat. Alors rien à voir avec le journal de Mickey, que vous aussi vous aviez lu quand vous étiez enfant, il n'y a pas si longtemps. Cette fois, Mickey campe le rôle d'un personnage taciturne, inquiet et profondément seul.
Oui, rien à voir avec les histoires légères et enjouées auxquelles on associe d'habitude Mickey. Cette fois, il a été catapulté dans un monde où les citoyens sont constamment opprimés par un roi maléfique, face à qui il n'est possible que de céder ou de rejoindre la résistance mafieuse qui s'organise autour du très malicieux Patibulaire, un autre personnage Disney. Pendant ce temps, Dingo a disparu, Minnie est partie de son côté à la recherche du continent perdu, bref, rien ne va plus. Et ça, c'est à cause de Denis-Pierre Filippi, la plume qui est à l'origine de tout ce chaos et à qui j'ai téléphoné.
L'objectif n'est pas de faire une fable écologique ou de faire une critique de la société ou du pouvoir, mais c'est vrai que d'intégrer les personnages dans ces dualités, le contrat social, le fait que voilà, si on veut vivre ensemble, il faut que chacun limite ses libertés, mais en même temps, est-ce que quelqu'un a le droit de prendre le pas sur nous et de nous dicter ce que l'on doit faire ? Toutes ces considérations plus ou moins philosophiques ou éthiques viennent nourrir l'histoire, mais ce sont plutôt des schémas qui se mettent en place pour que nos héros aient des contraintes internes. Déjà, on a parlé de la perte de Dingo qui fait que Mickey se refuse à continuer à poursuivre cette chimère du continent perdu. Et on a aussi des contraintes externes qui sont dans quel monde évoluent les personnages et quelle opposition il en sort.
Mickey et la Terre des Anciens, c'est leur second album dans cette collection, hein, mais ils ne sont pas les seuls à revisiter les aventures de la petite souris.
Oui, en effet, c'est Jacques Glénat qui est un fan de Mickey qui a dessiné en 2016 de proposer à des scénaristes et des dessinateurs qui viennent d'univers très différents de se réapproprier les personnages pour leur faire vivre autre chose. Tout ça, bien évidemment, en accord avec Disney et ça implique quelques contraintes.
Chez Disney, on a la possibilité de faire vivre à ces personnages-là toutes sortes d'aventures, mais il y a un cadre moral, entre guillemets, qu'il ne faut pas trop bousculer, donc sans franchir certaines frontières plus ou moins invisibles, de violence ou de comportements délictueux ou de choses un peu comme ça qui seraient hors normes. Après, notre objectif, c'était justement de ne pas forcément leur donner la valorisation dont ils sont porteurs. C'est pour ça que Dingo, par exemple, s'est retrouvé avec une attitude plus flegmatique, british, pas le gaffeur ou le maladroit habituel. Minnie n'est pas le faire-valoir de Mickey, et au contraire, quelqu'un de très volontaire dans la Terre des Anciens.
Et au dessin, on retrouve, vous l'avez dit, l'Italien Silvio Camboni, que vous avez également pu joindre par téléphone, Amélie.
Oui, ma première question, ça a été de lui demander, est-ce que c'est si facile de dessiner l'emblématique Mickey Mouse, surtout dans un univers aussi sombre et fantastique ?
En tout cas, c'est difficile parce que c'est un style très codifié. Donc, il faut bien le maîtriser, il faut maîtriser les personnages. Et Mickey, c'est pas facile en plus, c'est très délicat. Ça peut arriver bien facilement de dessiner un monstre si tu n'as pas vraiment l'habitude et les codes stylistiques Disney. Mais pour moi, ça a été un peu plus facile parce que vraiment, j'ai une expérience assez longue.
Assez longue, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, car Silvio Camboni a dessiné Mickey pendant plus de 30 ans. Il a effectivement longtemps travaillé pour le magazine Topolino. Alors Topolino, qui comme vous le savez sûrement Jean-François, c'est le nom de Mickey Mouse en Italie. Ça veut dire petite souris.
Bah oui, je m'en doutais parce qu'il y a un personnage de Tintin d'ailleurs qui s'appelle Monsieur Topolino. Je ne sais plus exactement dans quel album. Bon, est-ce que c'est l'équivalent italien de notre journal de Mickey ?
Eh bien pas vraiment, parce qu'en discutant avec lui, je me suis aperçue que la culture Disney et la culture de la BD en France et en Italie étaient très différentes.
Il y a une tradition énorme et magnifique de BD en France qu'on a un peu perdu en Italie. Par contre, au contraire, les fans des Disney en Italie sont beaucoup plus présents qu'en France. Et Topolino, notamment, a contribué à construire une culture de Disney qui ne soit pas vraiment juste pour les enfants, parce que nous, on a toujours écrit et dessiné des histoires assez adultes dans le magazine. C'est quelque chose qui manquait un peu en France, parce que le journal des Mickey, c'était un peu différent. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est comme ça.
Alors, dans la Terre des Anciens, on en a parlé, on retrouve un univers graphique très proche de Miyazaki, avec ses îles qui flottent dans les airs. Les auteurs m'ont aussi parlé de Moebius, d'Avatar, et évidemment du Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, ça saute aux yeux sur certaines planches, hein, les fans de Tolkien reconnaîtront certains lieux emblématiques. Bref, on est dans cette fantaisie médiévale, et j'ai demandé à Denis-Pierre Filippi où il souhaitait envoyer Mickey la prochaine fois.
Mickey a tellement vécu d'aventures que on va pouvoir retrouver des petits bouts par-ci par-là et on ne retrouvera pas chacune de nos histoires, bien entendu, mais il est passé entre tellement de mains, de tellement de scénaristes et de tellement de dessinateurs que effectivement le personnage peut, c'est la réponse de Silvio à chaque fois que je lui posais la question parce que je n'étais pas comme lui béni dans toutes les histoires qu'il a pu déjà dessiner, peut vivre n'importe quelle aventure à partir du moment, une nouvelle fois, où elle ne transgresse pas certaines limites morales, on va dire, et éthiques. Ce personnage-là est complètement polymorphe, on va dire. C'est une petite souris, mais en fait, ça peut devenir n'importe quel héros.
De Corto Maltese à Moby Dick, en passant par Frankenstein, il y en a pour tous les goûts. Mais si je peux me permettre une petite suggestion, Silvio Camboni, lui, recommande chez Glénat La Jeunesse de Mickey, dessinée par Thébault, dans lequel Mickey joue un grand-père avec barbe et grosses lunettes qui explique la vie à un ado greffé à sa console de jeux vidéo. Paraît que c'est très drôle.
Eh bien, on va se jeter aussi sur cet album. Merci Amélie. Mickey et la Terre des Anciens de Denis-Pierre Filippi et Silvio Camboni. C'est donc aux éditions Glénat ou Disney by Glénat pour être encore plus précis. Et on va donc terminer avec vous, Carmen. On va monter dans les plus hautes sphères de l'art lyrique en compagnie d'une cantatrice du XXe siècle surnommée la Divine. J'ai nommé Maria Callas.
Là où cesse la parole, commence la musique, a dit l'émerveillé Hoffmann. Et véritablement, la musique est une chose trop grande pour pouvoir en parler. Mais on peut toujours la servir et toujours la respecter avec humilité. Chanter pour moi n'est pas un acte d'orgueil, mais seulement une tentative d'élévation vers des cieux où tout n'est qu'harmonie. Maria Meneghini Callas.
La voix la plus mythique des primadonnas reprend vie à travers la voix parlée d'une autre icône, Monica Bellucci, après une soixantaine de films, Mission Cléopâtre, Matrix, Irréversible entre autres. L'ancienne James Bond Girl monte donc pour la première fois sur scène, d'abord au Théâtre Marigny à Paris, et actuellement en tournée d'Athènes jusqu'à Monaco, avec une lecture scénique des Lettres et Mémoires de Maria Callas, éditées plus de 40 ans après la mort de la diva grecque. Alors d'où viennent, Carmen, ces documents inédits ?
Un peu du monde entier, grâce à un passionné, le photographe et réalisateur Tom Wolfe.
Ah oui, il était venu d'ailleurs dans l'émission au moment de l'exposition à la Philharmonie de Paris, c'est ça ?
Exactement, il avait déjà, en fait, avant, tourné un documentaire en 2017, Maria Parca et Callas, ensuite suivi de cette exposition dédiée à la cantatrice indétrônable, elle qui a bouleversé l'art lyrique comme aucune autre par l'expressivité de sa voix, par son jeu, par son charisme sur scène.
Il y a plus de 300 lettres inédites dispersées un peu partout dans le monde. Ça a été un parcours du combattant pour les rassembler. Et elles m'avaient été confiées dans différents pays lors de mon premier grand voyage autour du monde à la recherche des proches illustres comme Franco Zeffirelli ou Georges Prêtre, ou les plus anonymes et parfois ceux qui ont été véritablement les plus proches d'elles, notamment Ferruccio et Bruna, son majordome et sa femme de chambre, qui ont vécu plus de 20 ans à ses côtés, qu'elle considérait comme sa famille et qui avaient eux, surtout, préserver un grand nombre de correspondances et aussi les mémoires inachevées. Et je pense qu'il n'y a pas de plus belle façon de découvrir Maria Callas que par ses propres mots, sa propre vision de sa vie de femme et de sa vie d'artiste.
Je me sens privilégiée d'avoir atteint les plus hauts niveaux d'une dure carrière et d'avoir eu la grâce de Dieu de te trouver, toi, qui as traversé l'enfer aussi et conquis les hauteurs.
Qu'est-ce qu'on apprend, Carmen, sur cette vie entre grâce et enfer qui a été celle de Maria Callas?
On découvre, Jean-François, surtout l'envers du décor, la femme derrière la légende, ou comme le dit Monica Bellucci.
Plutôt Maria que Callas. Tout le monde connaît la diva qui a fait rêver le monde, cette voix qui venait du ciel, accompagnée d'une technique hors norme. Et sur scène, on découvrira cette femme fragile, vulnérable, avec une âme très très grande, qui a voyagé dans le monde entier, qui était en contact avec les plus grands artistes, qui était aimée, désirée, et en même temps, elle est morte d'une grande solitude. Il y a beaucoup d'interviews d'elle, mais moi je pense que les choses les plus profondes, elle les a pas dites.
Elle les a pas dites, mais elle les a écrites, Jean-François, dans ses lettres à sa professeure de chant à Athènes, à son amie, l'actrice américaine Grace Kelly, ou encore au réalisateur italien Pier Paolo Pasolini, avec qui elle a tourné le seul film de sa carrière, Médée. 30 ans de confidences intimes et bouleversantes, réincarnées par Monica Bellucci et d'une ressemblance perturbante avec la Callas. D'ailleurs, elle se glisse même dans l'une de ses robes, restée à l'abri des regards depuis plus de 60 ans, et dans un décor qui évoque le salon de l'appartement parisien dans le 16e arrondissement, où la diva assoluta, morte à 53 ans dans la plus grande solitude, a passé les 15 dernières années de sa vie en perpétuelle bataille avec sa voix et contre les fausses rumeurs.
Par exemple, le fameux scandale de Rome, où on a dit qu'elle était capricieuse, qu'elle a arrêté la représentation en plein milieu, en quittant la scène devant le président de la République, eh bien, elle raconte pratiquement minute par minute ce qui s'est passé. Elle avait attrapé un gros coup de froid, elle était quasiment aphone la veille de la représentation, et on l'a littéralement poussée sur scène à un lynchage garanti. Donc, on découvre ce désir d'absolu dans son art, mais aussi finalement dans sa vie personnelle, notamment sa rencontre avec Onassis, ce qui l'a mené à un divorce. Ô combien difficile en 1959, où une femme ne pouvait pas demander le divorce en Italie. Elle était en avance sur son époque. Elle a défendu des valeurs de liberté.
C'est une femme qui a eu beaucoup de courage. Elle s'est rebellée à une époque et l'a payée très cher. Si aujourd'hui on paye moins cher, c'est grâce à des femmes comme ça.
Monica Bellucci, alias Maria Callas, dans ses lettres et mémoires rassemblées et scénographiées par Tom Wolfe, une tournée qui se termine le 15 octobre à Monaco, au théâtre Princesse Grâce, représentation maintenue jusqu'ici, m'avez-vous dit, Carmen. Merci beaucoup. Merci également à Amélie et Marjorie. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve lundi avec du théâtre. Marion Sieffer et Elena Delorance seront avec nous pour Jeanne d'Arc, une pièce qui met en scène une adolescente sur un plateau et sur Instagram. C'est au théâtre de la commune d'Aubervilliers dans le cadre du Festival d'automne. Et vous m'en direz des nouvelles.